7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment avoir confiance en soi et rendre muette cette petite voix installée chez certains qui murmurent à longueur de journée « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, ça ne sert à rien d'essayer ». C'est une des grandes préoccupations de nos sociétés qui sont de plus en plus centrées, à tort ou à raison, sur l'individu, sur la réalisation personnelle. Croire en soi, à défaut de croire en quelque chose. Encore faut-il comprendre comment fonctionne cette question, cette confiance en miroir. Croire en soi n'est pas toujours un talent inné. Alors comment éviter que le manque de confiance empêche certaines réalisations? Comment s'estimer à sa juste valeur? Les voisins et les voisines, c'est l'occasion pour vous de nous parler de vos doutes sur vos capacités, sur les conséquences aussi dans votre vie. Les femmes sont-elles davantage touchées par un manque de confiance? C'est une question bien sûr que je pose. Est-ce que c'est la société qui fabrique le manque de confiance ou bien plutôt l'histoire personnelle, familiale? Appelez-nous pour témoigner et bien sûr poser vos questions à nos invités. 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez poster des messages écrits. Je vous présente nos invités. Lionel Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à HEC, vous êtes consultant, vous avez publié La confiance en soi. HEC qui est une grande école de commerce en France où précisément la plupart des étudiants ont un peu la certitude de sortir de la cuisse de Jupiter.
Oui, c'est vrai, mais ça n'exclut pas que parmi ces grands élèves qui ont été plus que sélectionnés, il y a des fragilités. Et il y a des fragilités qui peuvent s'exprimer en termes de confiance en soi par rapport à des choses courantes dont on parlera sûrement, comme la prise de parole en public par exemple, où j'ai été moi-même un peu surpris en tant qu'enseignant d'en voir quelques-uns assez rapidement en difficulté, alors que pour le reste, évidemment, ça va.
Charles Pépin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez publié un livre sur la confiance en soi, une philosophie. Et en fin d'émission, notre partenariat avec le magazine Marie-Claire, qui nous mènera au Japon. Elsa Guilleuil a enquêté sur le retour des familles à Fukushima, 8 ans après la catastrophe nucléaire et le tsunami.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
La confiance en soi, c'est pas toujours gagné. Guy Marcel est à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il nous dit être bien formé dans son domaine de prédilection contribue à une grande confiance en soi, comme on le dit chez nous en Afrique. Quand tu connais ton travail, tu es sûr de toi. Oui, pas si vrai. Hein. Vous nous disiez à l'instant exactement le contraire, Lionel Bélanger, finalement. Hein. Des étudiants qui sont ultra diplômés, qui peuvent perdre leurs moyens sur des choses relativement insignifiantes.
Ben oui, parce que je crois que la prise de parole, entre autres, est un aspect extrêmement sensible de la confiance en soi, puisque ça met en évidence le regard des autres. Parler, c'est s'exposer. Or, la confiance en soi se joue notamment dans cette relation aux autres.
Marcus est à Brazzaville, au Congo Brazza. Il m'arrive, nous dit Marcus, d'avoir une foi énorme dans un projet et ensuite, le doute affaiblit ma volonté au point de jeter l'éponge. Il y a parfois ce cycle hein, chez certains de nos auditeurs qui nous racontent leur histoire. On est prêt à tout dépasser et puis tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, il y a ce doute qui arrive
de manière
totalement involontaire.
Justement, je pense que l'enjeu d'une vraie philosophie de la confiance en soi, c'est de bien penser ce rapport au doute et surtout pas de dire aux gens qu'ils auront confiance quand ils auront éliminé le doute, quand ils auront éradiqué le doute. Mieux vaut, je crois, au contraire, dire que le doute est intelligent, que l'anxiété est un signe d'intelligence, qu'on mesure les risques et les conséquences probables des conséquences, et donc apprendre à y aller avec son doute, à faire de ce doute un moteur et pas simplement un frein ou une entrave. Ce en quoi c'est une véritable sagesse. D'ailleurs, mon livre porte pour titre plus exactement « La confiance en soi, une philosophie ». C'est-à-dire, c'est pas simplement une méthode. C'est une philosophie de la vie dans laquelle on comprend que finalement le doute fait la grandeur de l'homme. Et déjà, ça aide à mieux le vivre quand on le voit comme ça. Ça me fait un peu penser, vous savez, à ces bluesmen qui chantent avec leur solitude.
Ouais.
Ils sont pas tout seuls, ils sont avec leur solitude. Bah, je pense que quand on est en confiance, on est avec son doute. Il faut faire de ce doute un ami. Et accessoirement, ça protège aussi de l'arrogance et de la suffisance. Et c'est-à-dire au fond de l'échec, parce qu'à force d'être arrogant, on finit par se planter.
La confiance en soi n'est pas l'arrogance. Alors, en tout cas, vous commencez déjà par rassurer pas mal. Bon nombre d'entre nous. On va laisser parler WhatsApp. Un voisin en RDC a posté ce message. Écoutez-le.
Bonjour le voisin et voisine, c'est depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Moi c'est Seth Kama, j'ai 23 ans, je suis étudiant. En fait, mon plus grand problème, j'ai pas de confiance en soi. Je me fais jamais confiance moi-même et pourtant je sais que je suis capable de réaliser certaines choses en fait. Je peux commencer un projet, je me concentre à fond, je me donne entièrement à cela. Mais je le finirai jamais en fait. C'est ça le plus grand problème. Même avec une fille en fait, on commence une relation et puis à un moment là, je me fatigue. On finit par la rupture en fait. Et je laisse tomber. Je peux dire non à quelque chose, mais parfois je me sens incapable. Parfois ça ne m'intéresse pas. Parfois je me tue. Parfois je dis rien. C'est ça le plus grand problème chez moi. Je ne me suis jamais fait confiance en moi-même, en fait. C'est comme si on est à deux, en fait, dans mon corps, en fait. Comme si il y a l'un qui est positif et l'autre négatif, en fait. Alors, je veux que vous m'aidiez. Merci beaucoup.
C'est Dia Mohamed Hadid de la Mauritanie. La confiance en soi et le sens de notre bien-être, elle est carrément liée à la conscience de soi, de ses capacités et de ses ressources. C'est ma petite expérience. J'étais quelqu'un timide, calme, qui n'abordait pas les gens facilement, peut-être par peur de l'inconnu, du rejet, de la trahison, de l'échec, de ce que les autres vont penser de moi, des critiques. Et j'ai eu à participer à un certain nombre de programmes du développement personnel. Ces programmes m'ont permis davantage de prendre conscience de mes capacités, mes points forts et mes points faibles à améliorer. Certes, il y a toujours des choses à se faire grandir, à développer quotidiennement, mais Dieu merci, je me sens aujourd'hui plus en plus zen et plus confiant. Ma question est la suivante. D'où provient-il cette petite voix qui nous empêche d'agir et de vivre la meilleure version de nous-mêmes?
Alors, d'où vient cette petite voix qui nous empêche d'agir, Lionel Bélanger, Charles Pépin? On pourrait finalement faire une liste des ennemis de la confiance en soi. Seth nous disait, c'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Mohamed parlait de la peur de la trahison. Alors, quelle est cette petite voix? Qui sont les ennemis de la confiance en soi, Lionel Bélanger?
Bah, ils sont nombreux et au demeurant parce que on entend, nous, dans les formations, dans les stages, dans toutes les démarches de développement personnel, des gens se plaindre en quelque sorte. Se plaindre que je me sens pas bien, que je réalise pas exactement ce que je voudrais faire, etc. On a toujours un petit peu l'impression derrière qu'il y a quand même un syndrome d'un idéalisme quelque part. C'est-à-dire se sentir parfaitement à l'aise, que tout aille bien, etc. Alors que la vie, c'est un bricolage permanent. Et donc, c'est comme ne pas accepter un petit peu cette souffrance, cette difficulté, ce manque qu'il y a et qui se traduit par de la confiance en soi. Moi, je n'ai pas peur de dire que je crois qu'il y a un certain excès là-dedans. Hein. Moi, j'avais été frappé par des gens qui viennent vers nous quand on est formateur et qui t'expliquent en 5 ou 10 minutes avec un aplomb incroyable qu'ils manquent de confiance en eux. Mais avec un aplomb extraordinaire. Nos deux amis que je viens d'entendre, là, m'ont l'air très à l'aise.
Exactement. Et il y a autre chose que je voudrais dire quand on vous écoute, messieurs, c'est que ils disent beaucoup, oui, la compétence, savoir faire très bien ce qu'on doit faire, ça donne confiance, tout en confessant qu'il manque de confiance. Et je crois qu'il ne faut pas trop centrer la confiance en soi sur le soi et sur les compétences. Évidemment que les compétences font du bien, mais il y a beaucoup d'autres choses, d'autres que moi, qui vont me donner confiance. Par exemple, les autres, tout simplement. La confiance relationnelle, d'être mis en confiance par des autres qui sont bienveillants, d'aller vers ceux qui me mettent en confiance, d'aller aussi vers ceux qui me font confiance, c'est un petit peu différent. Hein, mettre en confiance, c'est complimenter, sécuriser. Faire confiance, c'est confier une mission, une responsabilité. Donc il y a toute cette dimension, en fait, qui n'est pas une confiance en soi, mais une confiance en les autres. Donc il ne faut pas être trop obsédé par sa compétence, oui. Parce que dans ce cas, la question des autres est mise de côté. Et puis il y a autre chose, c'est que bien souvent, la confiance en soi, ben, elle vient d'autre chose que de moi et d'autre chose que des autres. Je dirais, elle vient du monde. C'est-à-dire, je me sens bien dans le monde, j'ai une émotion esthétique, je regarde le ciel, je fais du sport, je veux dire, je marche d'un pas avec un bon rythme sur le trottoir, et je m'aperçois que bien souvent, alors que je manque de confiance en moi par rapport à une échéance, par exemple, j'ai peur de prendre la parole en public dans mon entreprise mardi, et on est dimanche. Et en fait, je marche dans ma ville, et alors que je ne fais que marcher, que je suis sensible à la qualité du climat, eh bien, soudain, j'ai confiance pour mardi. Mais rien n'a changé de ma compétence, rien n'a changé des autres qui m'attendent au tournant le mardi. Ça prouve que pour avoir confiance en soi, il faut aussi un peu lâcher prise et s'ouvrir à autre chose que soi. La beauté, la musique, l'amour, et pas être trop obsédé par soi au fond.
En somme, la confiance en soi, la recherche de confiance en soi aujourd'hui serait presque devenue un symptôme de nos sociétés totalement nombrilistes.
Oui, je pense. Et d'ailleurs, l'expression est problématique. Alors, Monsieur Bélanger et moi, on est mal placés pour le critiquer parce que c'est le titre de nos livres, la confiance en soi. Mais au fond, je crois que l'expression est dangereuse.
Non, mais c'est super à la mode comme concept. Oui, mais on n'en parlait jamais il y a 20,
vérité,
30 ans. On ne disait pas, j'ai pas confiance en moi.
Mais raison de plus pour corriger un peu le tir et dire, voilà, la vraie confiance, c'est la confiance tout court. C'est quand j'ai confiance et je ne sais pas trop en quoi. Alors, il y a une dimension de compétence et de répétition, évidemment. Il y a une dimension de grâce relationnelle, de bonne rencontre. Et il y a une dimension que j'appelle mystique, mystérieuse. Et en fait, il faut développer les trois. Donc, si vous manquez de confiance en vous, ne vous focalisez pas sur la répétition d'un savoir-faire. Ce n'est qu'une des trois dimensions. Voilà.
La réflexion que l'on a sur sa propre confiance en soi doit obligatoirement mener à l'action. Selon vous, Lionel Bélanger ?
Alors, je crois déjà que une des manières de résoudre le problème de confiance en soi, c'est d'aller dans l'action, c'est d'agir, c'est de faire, c'est dans le faire. La meilleure des choses qu'on peut faire pour quelqu'un, pour l'aider, c'est de l'accompagner et de le mettre dans l'action et qu'il se mette dans l'action. On s'aperçoit comme par hasard que la confiance revient parce que c'est quand je suis en train de faire que ça fonctionne. Le vrai manque de confiance en soi, il est ressenti dans les périodes justement d'attente. Où quelqu'un pense, comme disait Charles Pépin tout à l'heure, j'ai une intervention à faire mardi, on est dimanche, je peux me mettre dans un coin, puis y penser pendant sans arrêt, quoi. Sans arrêt. Ce que j'aimerais faire remarquer aussi sur la confiance en soi, et à mon avis, ça confirme bien qu'il faut arrêter d'en faire un mal généralisé comme ça, c'est que le manque de confiance en soi est souvent dédié à un domaine précis. Il y a des gens, moi par exemple, je crois avoir confiance en moi dans ce que je fais, tout ça, etc. Vous ne me ferez pas monter sur un toit avec une échelle. Hein. J'ai la trouille du vertige, mais j'ai le vertige comme c'est pas croyable. Mais je m'en fous, c'est tout, je vis avec, c'est tout. J'ai confiance pour autre chose.
Ça veut dire qu'il faut se connaître aussi. La connaissance de soi, c'est le début de la confiance en soi.
Et accepter part de non-confiance en soi dans certains domaines. L'estime de soi, c'est complètement différent.
Alors justement, on vient d'en parler, puisque M. Bélanger disait que la confiance en soi, ça se nourrit dans l'action. En fait, la confiance en soi désigne la qualité du passage à l'acte. Est-ce que je sais y aller, au fond, malgré les doutes, malgré l'incertitude, malgré la peur de l'échec? Et pour moi, c'est assez nettement décorrélé de l'estime de soi. Je vais prendre deux exemples. Vous avez des gens, ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont super. L'estime de soi, c'est comment je me vois globalement, abstraitement, comment j'évalue ma valeur. Mmh. Moi, j'en vois plein autour de moi, ils ont une très bonne estime d'eux-mêmes, mais pour être sûr que ça ne change pas, ils ne font rien. Donc en fait, ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes.
Zéro prise de risque,
bien sûr, à
donc on reste toujours au même niveau.
Mais bien sûr, à l'inverse, il y a aussi le contraire. Des gens qui, comme ils ont une haute estime d'eux-mêmes, réussissent à passer à l'acte. Donc ma proposition dans mon travail, dans mon livre, est de dire, on va oublier l'estime de soi. Moi, ce n'est pas mon objet. Je travaille juste la question du passage à l'acte. Comment on fait pour y aller dans un univers incertain?
Et là, M. Bélanger en a très bien parlé. Et avoir un appétit pour cette forme d'aventure.
Ouais, et c'est surtout comprendre, et je prends un exemple très concret, que c'est l'action qui libère, c'est l'action qui donne confiance, c'est l'action qui me fait rencontrer la chance, c'est l'action qui me fait rencontrer autrui, c'est l'action qui me fait me découvrir que c'est pas si grave de se planter. Mais la sexualité le montre très bien. C'est un exemple que je prends dans mon livre, un jeune homme puceau, c'est sa première fois. Croyez-vous qu'il va prendre confiance avant de passer à l'acte, avant d'embrasser, avant de caresser, avant d'être rassuré par le contact avec l'action qui est le contact avec l'autre? Bien sûr que non. Et c'est comme un comédien de théâtre qui a le trac, il faut qu'il aille sur la scène et ça va bien se passer. S'il n'y va pas, il ne trouvera pas la manière d'avoir éradiqué le doute et d'être rassuré auparavant. Autre manière de dire qu'il ne s'agit pas d'être sûr de soi, mais d'avoir confiance tout simplement en l'action elle-même. C'est même pas en moi, c'est en l'action qui est le lieu de ma rencontre avec les autres.
Donc une partie de lâcher prise. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Un message posté sur WhatsApp d'une voisine à Yaoundé, au Cameroun.
Concernant la confiance en soi, chez moi, parfois j'ai confiance en soi, parfois pas. Ça évolue en don de si. En général, quand j'ai confiance en moi, c'est quand voilà, l'enthousiasme du début d'un projet, ou alors après qu'on m'ait complimenté, ou alors quand j'ai eu un succès. Et en général, quand j'ai un échec, ou alors quand quelqu'un qui est trop balèze me frustre, là, là, j'ai pas très confiance en moi. Mais heureusement, maintenant, ça va en dents de scie. Avant, c'était carrément toujours en bas, quoi. J'avais jamais confiance en moi. Comment la situation fait pour s'améliorer? J'ai fait beaucoup de développement personnel. Le développement personnel, ça aide. Parce que quand on vous dit, vous n'avez pas de limite, quand on vous dit, douter de son pouvoir, c'est donner du pouvoir à ses doutes, à ses limites, ça aide quand même. Et aussi, il y a la religion. Dans la religion catholique, quand on te dit, tu es précieux, aux yeux de Dieu, il t'a donné tout ce dont tu as besoin et voilà, tu as les talents nécessaires pour accomplir ta mission. Ça rassure quoi. Et puis il y a autre chose aussi, la gratitude. À force de se remercier pour tel ou tel talent, de dire merci, ça nous remémore ce qu'on a de beau et ça change notre image qu'on peut avoir de soi. Et l'entourage aussi, c'est important. Savoir s'entourer des gens qui nous subliment, des gens qui vont vous regarder et s'émerveiller de vous quoi. Et non, des gens qui sont toujours grincheux, qui voient du mal partout, qui dessinent le diable au mur. Donc, ça aide. Alors après, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'être assuré, d'avoir une ferme assurance en soi tout le temps et sur tous les aspects de sa vie? Ça, c'est un mystère pour moi.
Voilà, Ninelle, elle veut une assurance vie, hein, estime de soi non-stop.
Bon, je crois que ce n'est pas possible, justement. Le danger, il est là. Je parlais d'idéalisation tout à l'heure. C'est un des syndromes de notre société d'aujourd'hui, ça. Et les compagnies d'assurance vendent ça. À partir du moment où je suis assuré, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus aucun problème, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, on peut le comprendre. Mais cette quête-là, je crois qu'elle est dangereuse parce qu'elle fabrique, justement, de la crainte. Moi, il me semble que la confiance en soi, je suis d'accord avec Charles Pépin, a un peu le dos large. On en parle trop, et par exemple, c'est confondu...
C'est grâce à vous, quand même. Hein,
c'est confondu, tout simplement, là-dessus. Avec la peur, par exemple. Et simplement, j'ai peur. J'ai peur face à une situation donnée. En général, par exemple, on partoie tous au moins, de ne pas être très à l'aise par rapport à quelque chose qu'on fait rarement. Donc, il y a une certaine crainte, il y a une certaine peur, et c'est facile de dire « je n'ai pas confiance en moi ». C'est très facile de dire ça. Bon, moi, j'ai toujours été impressionné par la confiance en soi, le caractère manuel, l'artisan, par exemple. Le travail de la main, la gestuelle, il a une assurance dans le geste. Mais pourquoi? Parce que c'est très répétitif, parce que c'est sa vie, parce qu'il est là-dedans. Et l'exemple que je donnais toujours dans les conférences, c'est cet artisan qui a une confiance en lui extraordinaire. Sa main fait exactement ce qu'il veut et l'objet est ce qu'il veut. Sauf que lundi, quand il va voir son banquier pour demander un crédit, là, il a une trouille pas possible. Ouais.
Parce que ça, c'est important, parce que vous l'avez déjà dit, mais c'est important d'insister pour les gens. On a une confiance sectorisée. Et donc, il y a une question aussi, c'est comment on part d'une compétence localisée qui nous donne confiance à une confiance en soi plus globale qui excède le champ de ma compétence technique. Et on a une réponse dans l'intervention de madame. Elle a parlé beaucoup d'enthousiasme. Et on s'aperçoit que la joie de vivre, la curiosité, l'enthousiasme, la gratitude, toutes ces choses qui sont finalement à côté, or, qui dépasse la question de la maîtrise technique, paradoxalement, nous donne confiance en nous. Autre manière de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut arrêter de chercher à nourrir la confiance en soi uniquement par la compétence et la maîtrise. Il y a aussi une grâce de l'immaîtrise. D'ailleurs, vous parlez, Lionel Bélanger, de la prise de parole en public. Alors, je ne sais pas comment vous apprenez ça aux gens. Moi, je le fais aussi beaucoup, notamment à mes élèves. Eh bien, je leur dis, mais soyez prêts à accueillir l'imprévu. Ne vous préparez pas au sens où vous allez être dans le fantasme d'être parfaitement prêt. Il peut y avoir quelqu'un qui fait un malaise, un regard méchant, il peut y avoir un téléphone qui sonne avec un chien qui aboie, il peut y avoir plein de choses. Donc en fait, la confiance en soi, c'est pas de se préparer totalement jusqu'à s'illusionner en se pensant prêt, c'est de se préparer pour être prêt à supporter le fait qu'on n'est pas prêt.
Oui.
C'est-à-dire, au fond, c'est l'improvisation.
C'est ce que
la vraie
dis,
vie,
c'est
l'improvisation.
C'est une forme d'appétit pour l'aventure, d'une certaine manière.
Exactement. Hein. Et donc, pour ça, ce qui va vraiment nous motiver, nous donner de l'élan, c'est deux choses. D'abord, un amour et une joie de vivre globale. Et puis aussi, une acceptation de la possibilité de l'échec. L'échec, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on apprend, l'animal humain, à prendre ses erreurs. Et donc, souvent, c'est la peur de l'échec qui empêche d'avoir confiance en soi. Donc, je dirais deux grands axes très concrets. Un, développer tout ce qui permet d'être plus en joie et plus en amour par rapport à l'existence. La beauté, les relations humaines, la musique, tout ça. Et deux, comprendre que l'échec fait partie de la réussite.
Alors, l'échec, c'est quand même devenu aujourd'hui la super valeur ultra bankable. C'est comme la confiance en soi. Hein. Tout le monde écrit là-dessus, fait des conférences sur l'échec. On m'a même raconté, il n'y a pas très longtemps, qu'un jeune ultra, ultra diplômé dans la Silicon Valley passe des entretiens et on dit, ah non, mais vous avez un parcours extraordinaire, sauf que vous n'avez pas connu d'échec. On ne vous embauchera pas. Bon, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop là-dessus, sur le fait de magnifier l'échec?
Alors, c'est du marketing. Je me sens un peu visé, vu que c'est mon dernier livre, celui d'avant, c'est Les Vertus de l'échec. Non, je pense qu'on n'en fait pas trop, parce qu'il faut en faire énormément pour corriger le tir. Mmh. On est allé trop dans l'excès inverse auparavant.
On vient de loin.
On vient de tellement loin, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on voit dans les entreprises, on ne pouvait pas imaginer dans les grosses boîtes françaises comme des gens très talentueux sont placardisés au premier échec, on ne pouvait pas imaginer les entrepreneurs qui étaient fichés à la Banque de France jusqu'à il y a la loi Pellerin et qui ne pouvaient pas réemprunter d'argent.
Donc on a de la marge tellement on a cassé de talent, c'est ça.
Imaginez l'école française, comme beaucoup de maîtresses, d'instituteurs, de profs de collège cassent complètement, pas tous, heureusement, hein, pas tous, soyons clairs, mais cassent nos enfants dans leur talent, notamment d'ailleurs dans leur talent de créativité ou leur talent manuel. Donc on revient de tellement loin que c'est bien de rééquilibrer un petit peu. En revanche, là où je vous suis, c'est qu'il faut, montrer sous quelles conditions il y a une vertu de l'échec et sous quelles conditions l'échec donne confiance. Et ces conditions, elles sont nombreuses. Donc il faut pas tomber dans l'excès inverse de dire tout échec est une chance, tout échec est un diplôme, tout échec est à fêter. Non. Mais par contre, il faut poser des conditions. Alors ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une des conditions, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est de comprendre que finalement, j'apprends plus, je me nourris plus, je suis plus humain, je suis plus intéressant, je suis plus curieux dans l'échec que dans le succès. Et ça, on l'a tous vécu. Mais chacun dans son champ. Moi, par exemple, j'ai fait 13 livres. Bah, je me suis beaucoup plus interrogé sur mon désir et ma vocation à l'occasion de mes livres qui ont été des échecs qu'à l'occasion des succès. On a tous la même expérience. Mmh. Et bah, ça rassure les gens. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire, en fait, tu dois être grand et audacieux dans l'échec. Dans le succès, c'est facile, on y arrive tous. C'est dans l'échec que tu te révèles.
Alors, on n'est pas dans une émission de la béatitude et de la complaisance. Hein. On a bien compris. 7 milliards de voisins, les voisins, les voisines, si vous demandez ce que vous valez vraiment, ou au contraire, si vous avez une confiance en vous-même en béton, que rien ne vous arrête, appelez-nous d'ailleurs aussi. Hein. Tout le monde a la parole. Vous pouvez questionner nos invités. Comment rebâtir aussi une confiance que l'on a perdue suite à un épisode de la vie, une recherche d'emploi malheureuse, un problème familial ou sentimental, bien sûr. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Up. You can be anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong on that, sniffing up drugs, all in her nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death, watch the company you keep, and the crowd you bring, cause they came to do drugs, and you came to sing, so if you're gonna be the best, I'ma tell you how, put your hand in the air, and take the vow, I know I can,
I know I can,
be what I wanna be,
be what I wanna be,
if I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be,
I'll be where I wanna be.
Eh ben c'est Nas, tout simplement, chez 7 milliards de voisins sur RFI en direct. I Can, on est avec Lionel Bélanger et Charles Pépin qui ont tous les deux publié sur la confiance en soi. Vous êtes enseignants respectivement, consultants, vous faites des conférences évidemment sur cette valeur ô combien en hausse aujourd'hui, la confiance en soi. Je vous lis un message d'Élodie, elle est à Lomé, elle est célibataire. Elle nous a appelé, elle ne veut pas passer à l'antenne. Voilà ce qu'elle nous dit. Je manque de confiance en moi depuis toujours. Parce que je n'avais pas le soutien de mes parents, mais des réprimandes dès que je parlais. Je n'arrive pas à me livrer parce que j'ai peur du regard des autres. Dès que je dois faire quelque chose, je cherche à le faire parfaitement et je crains encore ce que les gens vont dire de moi. Si on me fait un reproche qui va à l'encontre de ce que je voudrais, je m'énerve, je suis célibataire, je me demande si ce n'est pas de ma faute. Pouvez-vous m'aider à être vrai ?
Je veux bien vous donner un conseil très simple. Et à mon avis, ça peut être très libérateur. Vous devez absolument arrêter de viser la perfection. Ce perfectionnisme, c'est l'autre nom du manque de confiance en soi. C'est la meilleure façon de ne pas y aller que de prétexter qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas parfaitement prêt. La vie, c'est pas la perfection, c'est la perfectibilité, comme le disait Rousseau. C'est pas la perfection, c'est le perfectionnement indéfini. Et je voulais vous dire un truc, pour rencontrer quelqu'un, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'accepter son imperfection de manière assez tendre. Ensuite, j'ai bien entendu le problème de l'enfance. Visiblement, vous n'avez pas eu la chance d'être porté par un regard absolument bienveillant, d'amour inconditionnel de vos parents qui vous pensent que magnifique, quels que soient vos résultats. Ben, vous n'êtes pas la première. C'est le cas de Bruce Springsteen, c'est le cas de Madonna, et c'est le cas de plein de gens, et ça ne les a pas empêchés de devenir confiants. Simplement, autre petit conseil... Eh bien, au lieu de chercher à être parfaite, eh bien, allez vers des personnes qui vont justement vous faire confiance et vous mettre en confiance. Je vous rappellerai juste un exemple très concret. Hein. Madonna, jusqu'à 11 ans, elle était très compétente en piano et très compétente en danse, mais elle ne pouvait pas chanter en public, elle ne pouvait pas danser en public. Sa mère était morte, son père s'occupait surtout d'autres enfants, elle était mal à l'aise, elle n'avait pas d'estime d'elle-même, donc peut-être un peu comme vous. Et puis... elle a rencontré un prof de danse à 11 ans, Christopher Flynn, qui lui a fait des compliments, non pas sur son application de la bonne technique, hein, c'est pas le bic rouge de l'école, mais sur sa singularité, sur son charme original. Et puis, il lui a fait confiance et il lui a dit ce soir-là, bah, tu réinventes le spectacle de fin d'année. Et elle est devenue Madonna. Et ça peut se faire à n'importe quel âge.
Mais ces compliments, alors déjà, il faut savoir, et il faut en avoir, mais il faut être capable de les recevoir, ces compliments, de les entendre. Parfois, on vous fait des compliments que l'on n'entend pas, parce qu'au détour d'une phrase, et on ne va pas savoir capitaliser sur ces compliments pour restaurer la confiance en soi.
Oui, je crois que malheureusement, chez les gens qui sont un peu traumatisés sur cette histoire de confiance en soi, c'est qu'ils ont une écoute extrêmement discriminante. C'est-à-dire qu'ils entendront le seul reproche qui leur a été fait, la seule nuance qui leur a été fait sur un truc qu'ils ont fait qui n'était pas bien. Et on peut leur dire, pour le reste, que tout va bien, ils ne l'entendent pas. Je crois que, alors je suis tout à fait d'accord sur le fait, c'est intéressant d'ailleurs de passer de l'échec à l'imperfection, l'acceptation de l'échec, on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, mais en amont, il y a simplement d'accepter l'imperfection, quoi. Cette imperfection...
Au profit du progrès.
Mais oui, tout simplement.
Je ne suis pas parfaite, alors, je progresse.
Que l'échec soit formateur, qu'on en tire des enseignements, ça c'est une réalité. Il y a eu un événement national, mondial, l'année dernière, avec la victoire de l'équipe de France de football.
Ouais. Et
un journaliste qui demandait à Didier Deschamps est-ce que la victoire du mois de juillet, ça vous a effacé l'échec contre le Portugal de 2 ans avant à Paris ? Il a dit, mais surtout pas, je le sens encore dans ma tête. C'est d'une cruauté terrible. Ça s'effacera jamais, Didier. Ça s'effacera jamais. Bien sûr que ça s'effacera jamais.
Et puis juste une chose pour cette jeune fille, il faut arrêter d'essentialiser. C'est-à-dire, c'est pas moi... qui vaut ça parce que j'ai réussi, je suis un winner ou une winneuse. Et c'est pas je suis un raté parce que j'ai raté. Il faut juste déplacer le regard sur des projets. Ok, ce projet a échoué, c'est pas moi qui ai échoué. Et du coup, bah c'est pareil pour la confiance en soi. Elle se conquiert à travers des actions, des réalisations. Il faut arrêter d'essentialiser et de voir trop loin, en fait. Il faut y aller petit à petit.
Super conseil, super réponse pour Elodie, mais alors ils sont très nombreux derrière, hein, à souhaiter dialoguer avec vous. Une question postée sur WhatsApp de James en Haïti.
Je suis un jeune à James, je suis un envoyant. Bon, moi, de mon côté, j'avais beaucoup de confiance en moi, surtout à travers mes études, à travers ce que j'entreprends. Mais le problème qui vient se poser là, ça fait un an que je ne vois plus rien. Et la famille qui avait confiance en moi, ma famille avait vraiment totalement confiance en moi. Et la famille comptait aussi sur moi. Et moi-même, je commence, sincèrement, je commence à perdre confiance en soi. Je me mets en quarantaine, c'est comme si je ne veux pas affronter quiconque. Et je sens aussi que ma famille commence à perdre confiance en moi. Je vais juste savoir que faire pour commencer à regagner confiance en soi. Qu'est-ce que je dois faire ?
James, qui est à Port-au-Prince en Haïti, eh bien, on va donner la parole pour répondre à James, à Junior, qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Junior.
Bonjour Emmanuel.
Vous étiez basketteur professionnel, en même temps vous poursuiviez vos études de droit, je parle au passé, jusqu'à vos 27 ans. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Junior ? Si je vous donne la parole juste après James, c'est qu'il y a une bonne raison.
Oui, je revenais de voyage d'affaires et j'ai subi un accident de route, fracture de colonne vertébrale, et après quelques années de soins et une opération. Je suis devenu paraplégique, je suis en fauteuil roulant.
Oui.
Et pendant mes séances de rééducation, on m'a appris à un moment que je ne pouvais plus marcher. Mmh. Et là, le motard, le basketteur que j'étais, étudiant plein de vie que j'étais, j'ai perdu totalement confiance. Mais avec les amis autour, ceux qui venaient tous les jours, on apportait des DVD, avec ma mère, avec les prières, le soutien incommensurable de ma mère, j'ai recommencé à grandir en espoir. Et tout doucement, avec un ami très proche, nous avons créé une entreprise et puis on a commencé. Mes premiers clients étaient les médecins qui me soignaient.
Ça, c'est fort, oui. Donc, vous avez créé votre entreprise de votre lit, en fait.
Bien sûr, à capital zéro.
Capital zéro, oui, en effet.
Que ma confiance.
Et aujourd'hui, vous vendez des motos et des voitures et du matériel informatique.
Je vends des motos, matériel informatique, voitures d'occasion depuis les États-Unis, un peu partout dans le monde.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à James ? Vous avez entendu son message en Haïti ? Il est en train de devenir aveugle.
Et j'ai les frissons, mais je lui dis, même dans le noir, il y a une lueur d'espoir. Même dans le noir, tu peux faire quelque chose. Le braille existe. Ne cherche pas forcément à être celui que tout le monde veut. Si ceux qui ne veulent pas compter sur toi, lâche-les et tu avances. Moi, j'avance. Je suis assis dans mon fauteuil roulant, je roule ma voiture moi-même, que j'ai adapté moi-même.
C'est-à-dire ne pas répondre au regard de la société qui vous intime de rester en marge avec votre handicap d'une certaine manière.
Bien sûr, la stigmatisation, il faut l'ignorer. Il faut être fort. C'est dans la tête, ça.
Ouais, ouais. Enfin, quand même pas si simple, parce que là, pour le coup, alors on en parlait, Lionel Bélanger et Charles Pépin, le regard de la société, là, il devient omniprésent dans la destruction de la confiance en soi.
Oui, je crois que là, on est sur des parcours de résilience. Hein, c'est la fameuse notion de résilience, c'est-à-dire cette capacité, effectivement, alors le mot est imprécis, mais à rebondir, c'est à créer quelque chose de nouveau à partir d'une situation nouvelle qui peut être considérée comme un terrible préjudice, hein, un terrible mauvais sort. Les parcours résilients, on s'aperçoit que quand on les analyse, au passage d'ailleurs, il y a tous les ingrédients de la résilience, il y a des tuteurs de résilience, il y a des gens autour, il y a une capacité à, comme disait Einstein un petit peu, à sortir de la difficulté, l'opportunité. Il l'a trouvé, l'opportunité. C'est extraordinaire que ça soit comme par hasard. D'ailleurs, elle était victime d'une moto, si je comprends bien. Et c'est sur la moto qu'il repart.
Accident de la route. Oui.
C'est extraordinaire. C'est ça, la résilience.
Charles Pépin.
Oui, pour James... Peut-être connaissez-vous ce livre de Jacques de Lucéran qui porte pour titre « Et la lumière fut », qui est un incroyable livre d'un homme qui devient aveugle et finalement se met à voir peut-être plus qu'auparavant et même devient résistant, un activiste résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Donc ça peut peut-être vous porter dans cette période difficile. Et aussi, à travers d'autres témoignages, on voit bien quand même que c'est aussi le passage à l'acte qui permet de reprendre confiance et de retisser des liens avec les autres, et encore une fois, évidemment, avec les bons autres, hein, pas ceux qui ne savent plus vous voir parce que vous ne voyez plus, mais ceux qui sont avec vous, quoi.
Junior, une dernière question. Vous qui êtes donc devenu paraplégique alors que vous étiez basketteur professionnel, aujourd'hui, il y a forcément des moments de doute encore qui peuvent vous assaillir par rapport au fait que vous êtes diminué physiquement et que votre corps n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez faire comme action?
Mais bien sûr. Comme une histoire où je devais épouser une femme où on m'a chassé pratiquement. C'est la stigmatisation, en fait. C'est la société qui par le regard, vous fait baisser les bras. Et je voudrais corriger un petit truc. Je n'ai pas fait mon accident à moto. C'était en voiture.
D'accord.
Donc, le facteur de résilience par rapport à la moto, ce n'était pas le cas.
Ouais.
Donc, comme je vous dis, il y a des faits qui, jusqu'à aujourd'hui, qui parfois, par exemple, il pleut, je dois sortir de ma voiture et rentrer dans le bureau. J'ai besoin d'aide. Mais le temps que vous marchez, le temps que moi je descends dans le fauteuil pour rentrer dans le bureau, je suis plus mouillé que vous. Parfois, je coule les larmes, ce qui n'est pas facile avec moi. Vous voyez un peu?
Ouais. Et vous êtes voilà. Toujours debout, c'est la meilleure image qu'on peut donner de vous, finalement, en tout cas dans vos propos, hein, Junior.
Oui, bien sûr, je publie des photos de moi debout souvent.
Et monsieur Junior, ce qu'on entend aussi dans votre témoignage, et c'est très important parce qu'on l'a beaucoup dit dans l'émission, mais on ne l'a pas dit si clairement, c'est que la confiance en soi, c'est surtout, c'est essentiellement une confiance en la vie, en cet élan vital. Et l'élan vital, souvent, on le mesure d'autant plus qu'il est entravé, qu'il est gêné, qu'on a donc une difficulté. Et c'est un peu facile à dire quand on n'est pas dans l'adversité, mais quand même, il y a toute une philosophie, Nietzsche, Clément Rosset, tous ces gens-là qui nous disent qu'au fond, on mesure sa joie de vivre et son amour de la vie à la mesure de l'adversité rencontrée.
Allez, on poursuit, on retourne au standard 33 1 84 22 71 71. Merci à vous tous qui nous appelez si nombreux avec de très beaux témoignages. On est en ligne avec Marie qui nous appelle de Dakar. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bravo d'abord, on est content toujours d'avoir des voisines qui nous appellent parce que bon nombre d'entre elles ne veulent pas passer à l'antenne ou se demandent si leur témoignage va être intéressant, ô combien, et bien sûr qu'il est très intéressant. Marie, vous aviez un manque de confiance en vous, alors certains vont rire, hein, ne vous offusquez pas, mais c'était un complexe physique à la base qui peut sembler tout à fait insignifiant, vous aviez les jambes arquées, c'est ce que vous avez dit au standard, hein, Marie.
Oui, en effet, c'est ça. Mon manque de confiance a commencé pendant l'adolescence.
Oui.
Parce que pendant l'enfance, je n'avais pas les jambes parquées, à vrai dire.
Oui.
Et pendant l'adolescence, c'est à ce moment-là que mes jambes se sont transformées. Ce qui fait que j'étais plus fine, je ne pouvais plus porter les jupes que je voulais. Et aussi... je ne pouvais plus porter les pantalons. La mode, c'était très difficile à suivre pour moi.
Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous avez retrouvé une confiance en vous?
Déjà, j'ai fait une introspection, d'accord. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que je suis une personne très ouverte de nature. Déjà, j'ai suivi des études en marketing parce que j'aimais la communication. Et dans mes lectures, j'ai vu un chef d'entreprise où on parlait d'innovation. Alors, il disait que soit il innove et il se plante de stratégie, ou bien il n'innove pas et il disparaît du marché.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ben, ça c'est mon cas. Si, soit je change d'attitude. Je cherche ce qui ne va pas.
Vous avez changé de lunettes sur votre problème, sur votre pseudo-problème, Marie. Merci beaucoup de nous appeler, en tout cas de nous avoir appelés. Vous êtes très nombreux à souhaiter témoigner. 33 1 84 22 71 71. Comment retrouver la confiance en soi? Simplice nous appelle de Toulouse. Bonjour Simplice.
Bonjour, bonjour RFI.
Vous êtes originaire du Congo?
Je suis originaire du Congo, Brazzaville.
Oui.
Je suis arrivé en France en 93.
Oui.
Donc, voilà.
Par quoi êtes-vous passé pour que la confiance vous quitte et que vous la retrouviez? Dites-nous en quelques mots, après on donnera la parole à d'autres auditeurs. Vous êtes encore nombreux.
Ok, je pense que chez moi, il ne m'a jamais quitté. Je pense que parce que je dis que j'ai une grande confiance en moi. Et je pense que ça vient de mes parents, de ma mère en particulier, qui était une femme très stricte, qui avait toujours un regard ou des actions bienveillantes. On pouvait être strictement puni, mais toujours derrière, il y avait des gestes qui nous disaient qu'on pouvait le faire, on pouvait le faire mieux. Donc je suis venu en France et malgré que dans la vie étudiante, on est passé par beaucoup de bas et peu de hauts, mais j'ai toujours cru que je pouvais le faire. Et je vois loin et les difficultés présentes ne m'arrêtent pas.
Voilà, j'ai toujours cru que je pouvais le faire et les difficultés présentes ne m'arrêtent pas. On arrive bientôt au terme de cette discussion, Lionel Bélanger et Charles Pépin. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et beaucoup d'ailleurs ont parlé de leur changement de regard sur leur environnement, sur la vie et de l'action. Alors, on repart avec quoi comme clé, comme conseil, après tout ce qu'on s'est dit, Lionel Bélanger, Charles Pépin?
Bah, je crois que chacun fait avec sa confiance. Et tout à l'heure, on parlait des dangers de la normalité. Je pense qu'il faut croire dans sa singularité. Et cette croyance dans sa singularité, c'est ce qui permet dans la vie de rester debout parfois quand elle vous met à bas, la vie. Et cette croyance-là, tant qu'elle est là, moi, tous les témoignages qu'on a entendus, j'ai senti de la confiance en soi, dans ce qu'on dit les gens. J'ai senti de la confiance en soi, même si parfois, ils affirment qu'ils n'ont pas confiance en eux.
Et j'ajouterais à ça que cette singularité en laquelle il s'agit d'avoir confiance, elle n'est pas à l'intérieur de soi, comme un bijou qui attend juste de sortir, mais elle s'invente en sortant de soi, dans la relation avec les autres, avec le monde, avec l'action, avec la chance aussi. Et donc, peut-être ce qu'on peut retenir de tout ça, qui peut-être résume l'ensemble, c'est que la confiance en soi se joue bien plutôt hors de soi qu'en soi. Voilà, dans la rencontre avec les autres, avec le monde, avec le réel au fond. C'est-à-dire, il ne faut pas que j'attende de m'être totalement rassuré dans une parfaite préparation pour y aller en confiance, mais c'est parce que j'irai que la confiance viendra.
D'autres, au contraire, disent, beaucoup de coachs disent que pour avoir confiance, il faut être très préparé. D'ailleurs, c'était un peu ce que vous nous disiez, Lionel Bélanger, le génie de l'artisan qui répète toujours le même geste et qui a une confiance en lui extraordinaire. Et dans ce geste-là, Charles Pépin, vous avez plutôt tendance à nous dire que pour avoir confiance, c'est pas tant que ça le travail et la préparation.
Je pense qu'on dit grosso modo la même chose. Il y a juste une petite note différente à la fin. Évidemment qu'il faut se préparer, évidemment qu'il faut s'entraîner. Tout le monde est d'accord. L'impréparation et l'incompétence, ça empêche la confiance. Mais il faut se préparer pour savoir aussi improviser. Et c'est ça la véritable confiance dans la vie, c'est l'improvisation. Regardez par exemple, si vous regardez Serena Williams et qu'elle s'entraîne à faire un passing de coup droit à l'entraînement. Elle le répète. Mais est-ce qu'elle le répète pour le faire exactement comme ça, le jour où il y aura une balle de match contre elle? Ben non, autrement elle serait prévisible et elle ne gagnerait pas. Donc si elle s'entraîne, si elle répète, c'est pour s'autoriser à sortir de la répétition. C'est-à-dire que pour moi, la confiance, ça se prépare, ça se cultive dans la préparation et la répétition. Mais le but, c'est d'aller plus loin et d'oser improviser.
Ouais, c'est exactement les métaphores du sport, effectivement, les philosophies du sport.
Il faut être son meilleur allié.
Ouais.
Il faut vraiment être son meilleur allié.
Merci en tout cas à tous les deux, Lionel Bélanger, Charles Pépin. Charles Pépin, vous avez publié La confiance en soi, une philosophie aux éditions Alary. Et Lionel Bélanger, vous avez publié La confiance en soi, guérir du manque de confiance en soi. On a l'impression qu'en effet aujourd'hui, c'est un peu un mal partagé. Et c'est publié chez ESF Éditeur. Merci à tous les deux d'être passés par le studio de 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, nous partons pour le Japon avec notre partenaire, le magazine Marie-Claire.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour Elsa Guillol.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur le retour des familles à Fukushima, 8 ans après la catastrophe nucléaire et le tsunami au Japon. Vous avez été marquée par ce reportage. Pourquoi avoir choisi de repartir au Japon sur cette thématique?
Parce qu'au départ, on a compris qu'en fait que les familles revenaient vivre et on se demandait comment il était possible de vivre à Fukushima aujourd'hui malgré la radioactivité.
Ce sont des retours volontaires des familles?
Alors, pas toujours. En fait, il se trouve que depuis que le gouvernement a décidé de réouvrir les zones à l'habitation, les familles, les évacuées qui en fait étaient parties vivre dans des régions voisines, se sont retrouvées sans indemnité. C'est-à-dire que TEPCO, la société qui gère la centrale nucléaire, a mis fin à ces indemnités. Donc les gens se sont retrouvés dans la possibilité de payer leur loyer et donc de retourner dans leur maison dans ces zones radioactives.
Donc ça veut dire que les familles reviennent pour des nécessités économiques. Le gouvernement japonais, Elsa, certifie que la ville est suffisamment décontaminée. Qu'en est-il réellement quel est l'état d'esprit des habitants qui reviennent ?
Ça dépend, et ils sont pour certains très résignés, très inquiets. Il y a aussi la notion de communauté au Japon qui est à prendre en compte, qui est très importante. Oui. Et il y a aussi cette envie chez eux de ne pas abandonner cette communauté, ces villes où ils ont grandi. Et on peut être mal vu, en fait, si on abandonne sa communauté.
Et son territoire. Il y a des images fortes qui vous ont marqué. Il y a des photos dans votre reportage de lieux qui sont laissés complètement en l'état depuis 8 ans, qui ont été quittés dans l'urgence absolue.
Moi, j'ai été très marquée par notre arrivée. En fait, au moment où on est arrivé dans ces villes... en l'occurrence, on était dans une ville qui s'appelle Namie, qui est dans la région de Fukushima.
Oui.
Et arriver dans cette ville, c'est un peu comme arriver dans la quatrième dimension. C'est-à-dire qu'on se réveille un matin et on est seul dans les rues et tout est détruit autour de vous. Il y a des herbes hautes qui partout sur les trottoirs, des maisons laissées en l'état ou complètement abandonnées, mais il y a encore les vêtements sur les cintres, le lit fait, les épices sur les tables de la cuisine. Et dans les rues, il y a du silence. Et c'est ce qui m'a le plus impressionnée.
Certains disent cette phrase « autant revenir vivre en enfer ».
Ça, c'est une jeune femme, Usai, qui elle est obligée de revenir parce que les indemnités, comme je disais tout à l'heure, ont été supprimées.
Oui, c'est ça, elle ne peut plus payer son loyer, hein, sinon.
Non, exactement. Et en fait, quand on va chez elle, parce qu'en l'occurrence, nous, on avait un dosimètre qui mesure la radioactivité, et la radioactivité est élevée autour de chez elle.
Comment sont considérés ces habitants? Comment on les regarde?
Vous voulez dire les Japonais entre
oui,
eux?
Oui, tout à fait.
Il y a ceux qui racontent qui font la comparaison avec Nagasaki et Hiroshima. Ce sont des irradiés et ils sont mal regardés en fait. Ils sont vus un peu comme des pestiférés et dans les autres villes du Japon, quand ils arrivent, ils sont très mal vus.
Comment envisagent-ils l'avenir? Comment on se réinstalle? Est-ce qu'ils se disent tous « plus rien ne sera comme avant » ou bien on regarde, on réfléchit à une autre vie, à réécrire une autre histoire sur ces décombres?
Ils ont pas le choix, donc oui, ils disent « on va essayer de reconstruire cette ville », mais c'est très compliqué parce qu'ils vivent quand même dans une région où partout autour d'eux, il n'y a que des maisons abandonnées, détruites, radioactives. Donc il y a des écoles qui rouvrent, ils nettoient, mais pour eux, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix en fait.
Merci Elsa Guillol. Cette enquête est à découvrir dans le numéro de mars du magazine Marie-Claire avec de très belles photos aussi. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous chez 7 milliards de voisins. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Nicolas Benita, Didier Cherouze. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Et puis, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous nous réécoutez aussi en podcast sur le site internet rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des arnaques sur Internet, de la fausse romance sentimentale aux usurpations d'identité, en passant par le piratage de données bancaires. Bref, formidable, sans sombrer dans la parano. Quels sont les pièges du web et comment s'en prémunir? À demain les voisins.